Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une semaine bien particulière et bonjour à vous tous qui nous écoutez cette semaine dans cette série spéciale puisque c'est le temps de la semaine sainte. Au micro pour intervenant, eh bien j'ai choisi l'intervention d'un curé en paroisse, et c'est le père Hervé Duplessis. Bonjour père Duplessis.
Bonjour Nathalie.
Alors en
bonjour
mission,
à tous.
En mission depuis 6 ans sur l'ensemble paroissial, la Sainte-Colline, avec entre autres cette paroisse du Christ-Roi pour le diocèse de Toulouse. Alors on va parler de paroisse, puisque votre mission première est d'être curé en paroisse. Quel est un peu, dites-nous, l'état des lieux de ces paroisses, de votre paroisse, et l'état des lieux de ce que vous pouvez aussi écouter, rencontrer de ces paroissiens?
Alors, l'état de lieu de chez moi, ça serait bien prétentieux de ma part. Simplement, peut-être se dire, après ce lundi saint où on a reconnu hier quand même que c'était pas très facile, que les temps étaient difficiles, bien au contraire, mais on a quand même des occasions d'action de grâce. Et je disais hier qu'il fallait que nous apprenions tous, le laïc et consacré, dans nos paroisses, que nous apprenions tous à essayer de nous émerveiller de ce qui va bien. Même s'il y a beaucoup de ténèbres autour de nous, ok, on rentre dans le tridium jeudi, mais essayons d'apprendre à nous émerveiller des petites choses dans l'accompagnement, par exemple, que l'on peut prodiguer les uns et les autres. J'imagine qu'on essaie tous de signaler, de faire remonter avant toute chose ce qui va bien dans nos vies, les mille petites choix de notre quotidien, et comment on peut transformer finalement en alexandrin la prose de notre existence, et comment s'émerveiller de ce qui peut aller bien. Eh bien, ce qui peut aller bien, c'est déjà d'avoir des gens qui prient. Et on en a, malgré tout. Alors, je sais que parfois, il faut aller les chercher loin, mais on a des gens qui prient, on a des gens qui ont soif de Dieu, on a des gens qui ont soif de vie, ce cœur à cœur avec le Christ, cette rencontre, que ce soit par un petit temps d'oraison, par un petit temps de la parole de Dieu. On découvre un petit peu, alors encore une fois, je ne peux pas parler de partout. C'est plus difficile en rural, j'imagine. La place de la messe, par exemple. Lorsque les gens sont pas loin en voiture, en vélo, ils peuvent prendre la messe quotidienne, et c'est un petit peu le cas. Moi, chez moi, c'est un petit peu cette situation que j'ai, et je ne peux qu'en rendre grâce, mais j'y suis pour rien, c'est le Christ. Après, c'est de voir des familles, peut-être qui ont soif aussi de Jésus, ce désir de transmettre aux enfants, et mon Dieu, que c'est un combat de chaque jour à renouveler. On a ce désir de gens qui veulent prier, de jeunes qui ont soif de Dieu. On a la chance à Toulouse d'avoir une très grande pastorale des étudiants, étudiant avec un super curé,
du feu de Dieu.
De super aumôniers avec lui, et de gens engagés. On voit quand même qu'il y a la jeunesse, une partie de la jeunesse a quand même encore soif, malgré les tribulations de ce monde. On voit les choses simples, des adorations toutes simples. Ça, c'est Benoît XVI qui nous l'avait dit, qu'il fallait redécouvrir. Jean-Paul II avait commencé à lancer la chose, et Benoît XVI nous l'a fait découvrir encore plus. Comment ne pas penser aux Journées mondiales de la jeunesse, celle à Cologne, où justement le samedi soir à Marienfeld, on a eu pour la première fois une adoration eucharistique à 1 million de personnes quasiment.
Vous y étiez ?
J'étais avec un groupe de Toulouse. Donc on a quand même des choses, des jeunes qui vont cathé, même si on a des groupes de cathé qui fondent un peu comme neige au soleil, n'ayons pas peur de nous le dire. On a des jeunes en aumônerie, on a des jeunes qui ont soif de partir en pèlerinage, on a des jeunes qui ont soif de faire des... On a l'école du scoutisme, alors peut-être plus difficile encore, pardonnez-moi, pour ceux qui sont en rural. On a la religion populaire qui est peut-être encore plus développée, pour le coup, en rural. Moi, en sortant, on pouvait faire des processions eucharistiques, des processions pour les saints, et il y avait quand même de la dévotion, de la belle dévotion. On sent que les gens ont quand même, dans ce maras dans lequel nous sommes, le soif de surnaturel, ils ont soif de sens. Et comme moi, j'ai un de mes dadas au niveau des jeunes, des moins jeunes et des plus vieux, c'est toujours de poser la question. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous faites dans votre vie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites de votre vie. Et dans cette vie au quotidien, entretien, c'est d'avoir les pieds bien sur terre, parce qu'il faut quand même bien gérer comme un bon intendant de notre vie. C'est notre liberté qui est à l'œuvre, mais en même temps, notre âme déjà au ciel, dans ces temps qui sont encore une fois quand même difficiles. Et je ne peux pas m'empêcher, Nathalie, de faire une petite allusion quand même, parce que je suis profondément marqué par ce qu'on appelle désormais, enfin je ne sais pas du tout une vérité d'Église, ce n'est pas un dogme, mais on l'appelle la prophétie de Joseph Ratzinger en 69, où il dit des choses quand même assez déconcertantes.
Je vous ai autorisé à dire des extraits.
Alors je vous dis un petit exemple. Déjà, dans la crise actuelle, Joseph, le cardinal Ratzinger disait, je ne sais même pas s'il était, non je crois qu'il n'était même pas cardinal, il était simple prêtre, dans la crise actuelle, une Église qui a beaucoup perdu émergera, elle deviendra petite, devra recommencer plus ou moins depuis le début, ne pourra plus habiter les bâtiments qu'elle a construits en période de prospérité. Au fur et à mesure, les fidèles diminueront, elle perdra aussi la plupart de ses privilèges sociaux, mais elle sera ancrée dans le Christ, on y reviendra sûrement d'ici.
Alors oui, elle vous parle, Père Duplessis, cette prophétie de 1969. Ah ben, est-ce qu'on est dans ces temps, un peu de cette prophétie de Ratzinger?
Alors je ne sais pas si on a le droit de dire qu'on est dans les temps, et ce n'est pas un manque d'espérance, ne me faites surtout pas dire ce que je ne veux pas dire, et je crois profondément que la petite fille Espérance, elle est là, mais qu'on passe un petit peu comme l'or au creuset, au fer du creuset, pour être cette purification que l'Église traverse actuellement et qui ne va pas s'arrêter, ne soyons pas dupes, de par ne serait-ce la situation de la France, la raréfaction du clergé, un clergé qui en partie est épuisé, et en même temps on s'émerveille de voir qu'on a encore des vocations, des jeunes prêtres qui ont soif, qui se donnent, qui veulent donner tout ce qu'ils ont de meilleur pour le Christ et dans l'Église, mais les temps vont être difficiles parce que le peuple de Dieu se réduit. En rural, la pandémie aussi a fait beaucoup de mal. Et on ose croire que pour une fois, cette semaine sainte que l'on peut vivre sans couvre-feu, sans confinement, va permettre à un certain nombre de redécouvrir la joie de traverser ce tridium et dimanche, samedi soir et dimanche, d'aller à la lumière de Pâques. On a une joie, par exemple, c'est les catéchumènes. Nous avons, alors je ne sais pas, dans notre diocèse.
Alors nous avons encore des catéchumènes.
Alors nous, on en a deux sur la paroisse. Ouais. Ils sont, mais surexcités, dans le bon sens du terme, et ils donnent une niaque, si je puis me permettre là encore, à tous ceux qui sont là, aux équipes qui les accompagnent, et à la communauté de la Sainte-Colline. Ils ont soif, ils attendent impatiemment samedi soir et dimanche de Pâques. On va les baptiser, les communier, les confirmer et les communier. Et eux, ce sont un signe d'éternité. Je vous parlais hier, le lundi saint, de ces petites joies, de ces petites lucioles d'éternité qui nous sont données. Eh bien, en tout cas, pour chez nous, Vianney et Chiraz, eh bien, ce sont deux lucioles d'éternité qui sont proposées dans toutes ces petites choses qui vont bien. Malgré tout, on tient comme on peut, mais on essaie de tenir.
Alors viendra un temps où il ne faudra plus tenir, où il faudra peut-être...
Alors il faudra peut-être une part d'abandon.
D'abandon peut-être, dans le sens spirituel.
Ou accepter, Seigneur, ta volonté et non pas la mienne, et toutes ces structures qui ne tiendront peut-être
plus. Parce qu'au fond, ces structures risquent de s'effondrer, Père.
Eh bien, écoutez, en rural, encore une fois, j'en sors, et j'ai bien vu en 25 ans quand même, l'affaiblissement de ces structures, ou la difficulté d'avoir 40 clochers à gérer, 50 km de long, on voit bien qu'on s'épuise.
Comment vous imaginez un peu ce futur de l'Église?
Alors là, moi j'ai encore
je
besoin...
Je ne vous demande pas une prophétie du
non,
Père
mais
Duplessis.
Non, mais j'ai quand même besoin de cette prophétie.
Alors, où comment se préparer?
Alors Jésus de Nazareth, par exemple, le pape Benoît XVI, faisait allusion comme au moment de son passage en France, sa conférence au Bernardin, il parlait des Querere Deum, il parlait des oasis des monastères, qui, au Moyen-Âge, ont permis de structurer les futures paroisses et de rassembler les communautés, de créer des communautés autour des monastères. Et dans une homélie beaucoup plus tard, Benoît XVI a parlé des oasis spirituelles. Que vont peut-être devenir, alors moi encore une fois je ne suis qu'un simple curé, pardonnez-moi cette prétention, mais le Benoît XVI n'a peut-être pas tort lorsqu'il dit qu'il y aura peut-être demain que quelques oasis où il faudra que vous puissiez, vous, les laïcs, venir vous ressourcer, peut-être à faire des kilomètres. Parce qu'il n'y aura plus de prêtres, il y aura des distances pour pouvoir vous ressourcer, pour qu'il y ait des lieux de fraternité, mais on en reparlera durant la semaine, pour pouvoir justement recharger les batteries, parce que quand même, ne perdons jamais de vue que votre mission à vous, les laïcs, c'est d'être dans le monde. Alors non pas des tours d'ivoire dans lesquelles on s'enferme et dans lesquelles on va mourir, parce que faute de personnel, faute de prêtres, faute de cadres, mais vraiment des lieux, des oasis spirituelles, comme Benoît XVI ne cessait d'en parler, et déjà le professeur Ratzinger à l'époque, où, parce que le Lumen Gentium vous le dit, eh bien, vous les laïcs, vous devez vous sanctifier en sanctifiant ce monde, et vous devez amener le Christ dans le monde. Et les paroisses ne sont que des oasis pour recharger les batteries, si je puis me permettre, pour venir vous nourrir sacramentellement, pour pouvoir venir vous confesser. Enfin, on redécouvre la joie de la confession, quand même.
Et
ça.
Oui, on y reviendra peut-être.
Hein. On va y revenir sûrement.
Ça, c'est aussi une des grandes joies dans le sacerdoce.
Ce soir, on commence les confessions. Demain, toute la journée, on est bureau ouvert à deux prêtres de 9h du matin jusqu'à 20h. On va confesser non-stop.
Ça, c'est pour la plus grande joie du prêtre.
Sacerdotal.
Vous êtes au cœur du ministère.
On est sacerdotal. Lorsqu'on célèbre le sacrifice eucharistique, le jeudi saint, c'est quand même un moment très fort pour nous et pour tout le monde. Et la confession, bien sûr, c'est une immense joie. Mais ça, ce fait partie de ces joies du quotidien que l'on peut avoir.
Un dernier mot
Pour que vous, les laïcs, vous puissiez repartir dans ce monde et être témoin du Christ dans votre quotidien, pas avec des panneaux « Jésus est vivant », mais simplement par un art de vivre, disait Benoît XVI encore une fois, dont on reparlera sûrement cette semaine.
Oh ben oui, on va beaucoup parler, vous allez beaucoup parler pendant cette semaine sainte, même si la semaine sainte peut être aussi le vendredi saint, dans ce silence aussi du vendredi saint et du samedi saint, mais on en reparlera. Merci à vous pour votre enthousiasme. Ce dynamisme aussi dans la mission que vous avez en paroisse, dans votre ministère de curé. On vous retrouve demain, on sera le mercredi saint. Merci Père Hervé Duplessis et à demain.
Merci Nathalie.